J'ai l'air de fanfaronner, quoi, d'arriver comme ça avec tambour, trompette, trompette surtout, et en pleine forme, mais moralement, ça va pas hyper fort. Ça va pas hyper fort, et c'est à cause de ce truc-là, là.
Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été.
Quoi? Vous êtes sérieux là? Les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été? Vous pouvez le redire ça?
Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été.
Et donc il l'a redit. Il l'a redit. On va plus se voir. On va plus être ensemble. Je vais plus me promener parmi vous. Je vais plus vous voir. Mettre la main sur votre épaule, vous regarder dans les yeux. Non, mais c'est incroyable. Un cours, c'est de la présence, c'est du contact, c'est du physique, c'est du charnel, c'est de l'envie commune, c'est... Attends, je vois bien que vous ne comprenez pas, c'est trop compliqué, je vais le redire autrement. C'est pas quelque chose qui se fait à distance. Et puis on ne peut pas dire comme ça, froidement, sans aucune émotion.
Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été.
Moral, ça m'a cassé le moral. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre. En plus, je sais que pour vous, c'est difficile. Je sais que la manière de travailler est complexe. Je sais et... Je comprends et toute l'équipe pédagogique comprend combien cette manière de faire du droit est une manière désincarnée, froide, austère, contraire à tout ce que l'on aime, que vous aimez et que l'on aime nous aussi. Je sais aussi que vos conditions de travail ne sont pas toujours très faciles. Je sais aussi qu'on a mis une fiche de TD un peu tardivement et que ça vous a compliqué vos emplois du temps. Sachez que, encore une fois, l'équipe pédagogique est tellement concentrée, tellement dédiée, tellement volontaire, elle a tellement envie de faire en sorte que cette épreuve si compliquée ne vous mette pas trop à distance du droit, trop à distance de vos études. Et n'ajoute pas des difficultés à celles que vous pouvez rencontrer, sachez-le. On va d'ailleurs tout faire pour que vous puissiez réussir vos examens et franchir avec fierté cette période extrêmement difficile. J'arrête, je passe au cours, je passe au cours et je passe à un cours qui est évidemment très important puisque... Il va correspondre à une fiche de TD numéro 20, il va correspondre à des questions qui sont l'aboutissement pour l'essentiel de votre deuxième semestre.
Nous arrivons enfin à un titre 2, la mise en œuvre de la responsabilité civile. Vous le savez déjà, parce qu'on l'a étudié à la fin du premier semestre, il y a un principe de non-cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Dès lors qu'il y a un contrat à l'origine du dommage, que la victime est liée à l'auteur par le contrat et que le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle, alors la nature de la responsabilité qui en résulte est contractuelle. Et par conséquent, elle n'est pas et ne peut pas être délictuelle. Le propre du droit français est de reposer sur un principe essentiel que l'on appelle le non-cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, et qui en réalité correspond au fait que le demandeur, la victime du dommage, ne peut pas à son choix agir sur l'un ou sur l'autre fondement, elle est tenue d'agir sur le terrain contractuel dès lors qu'il y a un contrat, je viens de le dire, à l'origine du dommage, et que ce dommage est la suite de l'inexécution d'une obligation née du contrat. Alors vous comprenez du coup immédiatement que plus le contrat contient d'obligations, plus le domaine naturel de la responsabilité contractuelle s'étend. Or, vous le savez, la jurisprudence, au moins jusqu'à une période très récente, a élargi les obligations qui sont dans le contrat, a découvert des obligations dans le contrat, a multiplié les obligations qu'elle découvrait dans le contrat. On en a déjà parlé avec l'obligation de sécurité. On en a aussi parlé avec l'obligation d'information, je vais y revenir. Et vous savez que ce faisant, en faisant en quelque sorte, selon l'expression d'un auteur, parler le contrat, pour lui faire dire des choses, pour y découvrir des obligations, ce faisant, la jurisprudence a étendu le domaine de la responsabilité contractuelle et réduit d'autant, puisque l'un est l'envers de l'autre, le domaine de la responsabilité délictuelle. On comprend donc que les choses ne sont pas figées. Le domaine de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, ou les domaines respectifs de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, ne sont pas figés. Ils évoluent sous l'influence de la jurisprudence. D'ailleurs, on en connaît une illustration extrêmement éloquente. Parfois, la jurisprudence non seulement découvre des obligations dans le contrat, mais elle va même parfois jusqu'à découvrir un contrat là où, a priori, on ne pensait pas qu'il existait un accord de volonté entre les protagonistes. Je songe à quoi ? Je songe à la convention d'assistance bénévole que vous connaissez bien, que nous avons envisagée en début d'année, hypothèse dans laquelle, vous le savez, une personne vient prêter son assistance de façon bénévole à une autre, et la Cour de cassation a, dans un certain nombre d'hypothèses, inventé, découvert un contrat, une convention entre l'un et l'autre. Et évidemment, une fois qu'elle avait découvert cette convention, elle y a également découvert et créé de toutes pièces les obligations nées de cette convention. Je vous renvoie à votre premier semestre, aux exemples que j'ai donnés, par lesquels je prenais comme illustration la possibilité de venir aider une personne à déménager un samedi matin. Et cette aide qui est apportée à autrui a pu être considérée comme faite sous l'empire d'une convention d'assistance bénévole. J'ai donné également cette illustration jurisprudentielle d'un frère qui vient aider son frère à tronçonner les arbres. Et cette assistance bénévole va être considérée comme également faite sous l'empire d'une convention d'assistance bénévole. Et la Cour de cassation, dans ses hypothèses, a découvert le contrat, la convention d'assistance bénévole. Elle a aussi découvert les obligations qui en résultent, et notamment l'obligation pour l'assisté d'indemniser l'assistant du dommage, du préjudice corporel qu'il pourrait avoir souffert du fait de la convention, de l'exécution de la convention d'assistance, ou bien encore de garantir l'assistant pour le dommage qu'il aurait causé sans faute de sa part à un tiers. Et ces deux obligations-là sont inventées de toutes pièces dans un contrat lui-même inventé de toutes pièces, la convention d'assistance bénévole. Et évidemment, on va alors se retrouver sur le terrain contractuel et non pas sur le terrain délictuel. Alors c'est intéressant parce que si je résume ce que je vous dis depuis quelques minutes, vous comprenez que la jurisprudence découvre, dans certaines hypothèses, un contrat, découvre des obligations dans les contrats et qu'elle fait varier, ce faisant, les domaines respectifs de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. On peut même dire qu'il y a eu, à la fin du XXe siècle, tout un mouvement de contractualisation. Qu'est-ce que ça veut dire, un mouvement de contractualisation? Ça veut dire que la Cour de cassation a multiplié la découverte d'obligations dans le contrat. J'avais donné l'exemple de l'obligation de sécurité et de l'obligation d'information. J'avais montré, vous vous souvenez, que dans nombre de contrats, l'obligation de sécurité s'est propagée et que par conséquent, la violation de cette obligation de sécurité donnait droit à une action de nature contractuelle, à un fondement contractuel, pour le cas où la victime avait souffert de l'inexécution de cette obligation de sécurité. Vous avez vu dans la séance 18 qu'il y a aussi un mouvement de balancier en sens inverse. À la contractualisation a succédé la décontractualisation. Et l'exemple que vous avez vu, c'est celui de l'obligation d'information. J'en dis un petit mot parce que nous sommes finalement dans des questions complexes, mais dans des questions extrêmement intéressantes. Années 80, années 90 de la fin du XXe siècle, mouvement de contractualisation, la Cour de cassation découvre dans un certain nombre de contrats, et notamment dans le contrat médical, une obligation d'information au profit du patient et à la charge du médecin. Il s'agit d'une contractualisation parce qu'elle invente une obligation et la rattache au contrat. Mouvement inverse depuis le début des années 2000 de décontractualisation, qui a consisté à partir de la loi du 4 mars 2002 à sortir l'obligation d'information du contrat, à la rattacher à la loi. Et si vous vous souvenez de votre séance 18, et je sais que vous vous en souvenez, vous vous souvenez qu'on vise alors l'article 16-3 du Code civil. On est dans un rattachement à la loi elle-même et non plus au contrat. On a donc sorti l'obligation d'information du terrain contractuel pour rejoindre le terrain délictuel. Et si je continue à envisager au fond les choses entre contractuel et délictuel, entre contractualisation et décontractualisation, je vais observer que de plus en plus, on se propose également de sortir la réparation du préjudice corporel du contrat lui-même pour l'indemniser sur le terrain délictuel et faire en sorte que la victime d'un dommage corporel ne dépende pas des clauses du contrat et puisse agir sur un fondement légal. Bref, ma première grande remarque, c'est qu'il existe des mouvements entre les domaines respectifs de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, que ces mouvements dépendent des tendances de la jurisprudence, que des mouvements ont consisté, un mouvement a consisté à contractualiser un certain nombre d'obligations et a donc à étendre le domaine du contrat, et qu'à ce mouvement-là a correspondu ensuite un mouvement de décontractualisation. Mouvement de décontractualisation qui pourrait se manifester de façon très éloquente sur le terrain du préjudice corporel à partir du moment où on accepterait, hypothèse envisagée par la réforme du droit de la responsabilité, d'indemniser la victime d'un dommage corporel sur un fondement légal, délictuel et non pas sur un fondement contractuel. Cette dualité des responsabilités contractuelles et délictuelles, je l'ai dit tout à l'heure, est essentielle en raison de l'existence du principe du non-cumul qui empêche, qui interdit à la victime d'un dommage de choisir à sa guise, à son gré, l'un ou l'autre fondement. Dès lors que elle est victime de l'inexécution d'un contrat, elle doit agir sur le terrain contractuel. Alors, si tout va bien, je vais un peu compliquer encore les choses, ou en tout cas monter de niveau en termes de complexité. Je viens de dire, il y a un principe du non-cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Je viens de dire qu'il y a des obligations contractuelles et des obligations légales. Et je viens de dire, au fond, sans y insister, que lorsqu'on noue une relation avec un co-contractant, on peut parfaitement imaginer deux hypothèses. Première hypothèse, que l'on soit victime de l'inexécution d'une obligation née du contrat qui nous lie à ce co-contractant. Ou encore, deuxième hypothèse, que l'on soit victime de l'inexécution d'une obligation légale de la part du même individu, ce co-contractant, mais que dans ce cas, on ne se trouve plus sur le fondement contractuel, mais sur le fondement légal. J'en vois qui sont un peu perdus, et je dois dire que je le comprends. Mais regardez ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit, prenons le médecin et le patient. Vous êtes d'accord avec moi? Il existe un contrat médical, un lien de nature contractuelle entre le médecin et son patient, et vous savez comme moi que c'est le fameux arrêt Mercier qui a consacré l'existence d'un contrat entre le patient et le médecin. Et vous savez comme moi que ce contrat oblige le médecin à délivrer des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises ou actuelles de la science, selon les différentes formules de la Cour de cassation. C'est un contrat qui comporte une obligation de soins. Il comportait aussi une obligation d'information de nature contractuelle qu'a ajoutée la Cour de cassation à la fin des années 80-90. Elle a contractualisé l'obligation d'information. Maintenant, cette obligation d'information, vous l'avez noté, elle est décontractualisée et vous savez qu'elle repose sur un fondement légal. Alors, de deux choses l'une. Soit le patient agit pour cause de violation de l'obligation de soins et il est tenu d'agir sur le contrat parce que cette obligation est de nature contractuelle. Le principe du non-cumul ne lui permet pas d'agir sur un autre fondement que contractuel. Il n'a pas le choix. La violation de l'obligation de soins l'oblige à agir sur le terrain contractuel. Mais s'il se plaint d'un défaut d'information, vous pouvez alors concevoir que, dans cette hypothèse, il agisse sur le fondement de l'article 16-3, c'est-à-dire un fondement légal. Et ce faisant, vous comprenez très bien qu'une même personne, le même patient, peut, selon le cas, agir sur le terrain contractuel ou sur le fondement délictuel, parce que dans la première hypothèse, il se plaint de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Et dans la deuxième hypothèse, il se plaint d'inexécution d'une obligation qui trouve sa source dans la loi et non pas dans le contrat. Et pour autant, et je crois cette fois que vous me suivez, pour autant, il n'y a pas de violation du principe du non-cumul, car il n'a jamais choisi son fondement. Il a été obligé d'agir sur le fondement contractuel pour la violation de l'obligation de soins. Il a été obligé d'agir sur le fondement légal pour ce qui ressortit à l'obligation d'information, ce qui relève de l'obligation d'information. C'est un même raisonnement, c'est une même logique qui prévaut dans des arrêts récents par lesquels la Cour de cassation accepte à la fois qu'un contractant puisse se plaindre sur le terrain contractuel s'il le souhaite et en même temps puisse agir en cas de rupture d'une relation commerciale, puisse agir sur le fondement légal, sur le fondement du code de commerce, parce que la rupture de la relation commerciale est sanctionnée par la loi. Autrement dit, il est tout à fait possible à un co-contractant de se prévaloir d'une disposition légale à partir du moment où il se plaint de la violation d'un devoir légal et non plus d'une obligation contractuelle. Je vous renvoie à des arrêts que vous trouverez dans votre fiche. 27 mars 2019 de la Chambre commerciale. 27 mars 2019, c'est un pourvoi numéro 16, 24630. Et le deuxième qui va dans le même sens, c'est un arrêt du 10 avril 2019, numéro de pourvoi 18-12882. Ce sont des arrêts qui ne font qu'illustrer ce que je viens de vous dire et que je veux réellement que vous compreniez. Il n'y a finalement pas de grande difficulté. Une même personne peut agir contre une autre, soit sur le terrain contractuel, si elle est liée à elle par un contrat, soit sur le terrain légal, parce qu'elle se plaint de l'inexécution d'une obligation qui trouve sa source dans la loi elle-même. Alors, si cette personne est un tiers au contrat, si elle n'est pas du tout liée par une relation contractuelle, et qu'elle subit un dommage qui trouve son origine, qui trouve sa source dans un manquement contractuel, dans le fait qu'une personne, un contractant, n'exécute pas son obligation contractuelle et que ça vient causer un dommage à un tiers. Mais vous connaissez cette hypothèse. On l'a envisagée au premier semestre à travers un arrêt très important de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, arrêt connu sous le nom de Bootshop, B2OT, Shop, S-H-O-P, ou encore l'arrêt Miro, M-Y-R-H-O. C'est un arrêt qui s'interroge sur la possibilité pour le tiers à un contrat de se prévaloir du manquement contractuel réalisé par un contractant, évidemment lié à quelqu'un d'autre par un contrat. Ce tiers vient se plaindre du fait que le contrat a été mal exécuté et que lui-même souffre d'un préjudice. La Cour de cassation a jugé en 2006 que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. J'avais donné un exemple, vous vous souvenez peut-être, tenant à une obligation de non-concurrence. J'avais dit, voici un boulanger A qui vend sa boulangerie à B. Il y a un contrat entre A et B. Dans le contrat entre A et B, on insère une clause de non-concurrence. A n'a pas le droit de concurrencer B. C'est bien contractuel. Et voici que, quelques mois plus tard, en violation de cette obligation de non-concurrence, A se réinstalle dans les alentours et ouvre à nouveau une boulangerie qui concurrence B. Il viole son obligation contractuelle. Il n'y a pas de doute. Ça nuit à B. Mais vous admettrez avec moi que ça nuit également aux autres boulangers qui sont dans les parages. Et on peut imaginer que à côté de B, il y ait la boulangerie C. Et voici C, qui n'a aucunement contracté avec A, qui vient dire « Mais dites donc, vous vous êtes réinstallé là dans le quartier et en vous réinstallant, vous me causez un préjudice parce que vous détournez une partie de la clientèle. Il s'agit d'un préjudice qui trouve sa source dans un manquement contractuel, qui trouve sa source dans la violation d'une obligation contractuelle. Alors, dans cette hypothèse, le tiers vient se plaindre du manquement contractuel. Et la Cour de cassation a dit, au fond, ce manquement contractuel, il équivaut à une faute délictuelle. Et elle a considéré que le tiers agissait sur le fondement délictuel, ce qui est dans la logique du principe du non-cumul, mais qu'il pouvait se prévaloir du manquement contractuel dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage, sans avoir à prouver autre chose. C'est ce qu'on appelle, au fond, l'identité des fautes contractuelles et délictuelles. C'est le fait que le manquement contractuel ipso facto vaut faute délictuelle et permet l'action en responsabilité délictuelle. Cette solution a fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Elle devrait faire l'objet d'une remise en cause s'il y avait réforme du droit de la responsabilité, car le projet la remet en cause. Et pour autant, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation l'a réitéré dans un arrêt important, très important, du 13 janvier 2020, dont vous aurez l'occasion de discuter en séance de TD. Elle a considéré que la caractérisation d'un manquement contractuel, à la condition que ce manquement ait causé un dommage au tiers, suffisait à ouvrir à ce tiers droit à réparation. On a critiqué cette solution, notamment parce qu'elle porterait atteinte au principe de la relativité des contrats. Elle a toutefois été répétée par une Cour de cassation qui connaît bien les critiques dont sa solution a fait l'objet, mais qui l'a pour autant à nouveau consacrée. Je suis toujours dans cette introduction au titre 2 et je dis « Il existe un principe de non-cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle » et j'en montre les agencements, la portée, les effets. Je pourrais dire que ce principe du non-cumul, il n'a de sens qu'à partir du moment où les solutions pourraient être différentes, les fondements différents et les solutions différentes entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Et il me faut dès lors vous rappeler qu'une des grandes tendances du droit contemporain, est d'unifier les responsabilités contractuelles et délictuelles, c'est-à-dire d'élaborer des régimes de responsabilité qui regroupent en leur sein les hypothèses dans lesquelles il y a ou il n'y a pas contrat. Cette unification des responsabilités contractuelles et délictuelles, vous en connaissez plusieurs illustrations, et notamment celle de la loi Badinter de 1985. Vous savez que cette loi Badinter de 1985, elle est applicable peu important que la victime soit ou non transportée par contrat. Elle est applicable qu'il y ait ou non un contrat entre la victime et le responsable. Peu importe l'existence du contrat ou l'absence de contrat, les solutions vont être identiques. On unifie dans cette hypothèse la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Même chose pour la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette tendance à l'unification montre la volonté de dépasser la dualité des responsabilités délictuelles et contractuelles dans le droit contemporain de la responsabilité. Alors, passons désormais au développement que ce titre 2 invite à faire. Première interrogation, chapitre 1, le fondement de l'action en responsabilité. Je vais essayer de reprendre des choses que vous connaissez, de les remettre dans un ordre cohérent pour qu'elles soient claires, ces choses, dans votre esprit. Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Vous savez qu'il y a une multitude de régimes en matière de responsabilité délictuelle. Vous savez qu'il y a différents régimes qui sont consacrés dans le Code civil. Vous savez qu'il y a des lois spéciales. Vous savez qu'il y a des régimes spéciaux. Comment agencer, au fond, tous ces régimes en matière de responsabilité délictuelle ? Section 1, les relations entre les différents types de responsabilité. Paragraphe 1, les relations entre le fait personnel et le fait des choses. Je vise donc deux articles. Je vise l'article 1240 et l'article 1242, alinéa 1er. Et je prends donc comme hypothèse qu'il y a un dommage du fait d'une chose et que dans le même temps, le gardien de cette chose a personnellement commis une faute, ce qui signifie que la victime pourrait à la fois agir sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er, le fait de la chose, la responsabilité du fait de la chose, et sur le fondement de l'article 1240, la responsabilité du fait personnel. Vous serez assez vite d'accord que, logiquement, la victime n'a pas d'intérêt à cumuler les deux fondements, parce que il va de soi, vous l'avez à l'esprit, que la responsabilité du fait des choses est plus favorable que la responsabilité du fait personnel pour la victime, parce que cette responsabilité du fait de la chose, elle repose sur une responsabilité de plein droit sur le gardien de la chose. Et en plus, vous vous en souvenez sans doute, il y a une présomption de causalité lorsque la chose est entrée en contact et était en mouvement et est entrée en contact avec la victime. On est donc sur un régime beaucoup plus favorable, celui du fait des choses, que celui du fait personnel, puisque le gardien ne peut pas s'exonérer en prouvant, par exemple, son absence de faute. Mais il reste que ma réponse va être en deux temps. Premier temps, comme je viens de le dire, c'est beaucoup plus favorable d'être sur 1242 alinéa 1er pour la victime. Mais théoriquement, deuxième temps, la victime peut conjuguer les deux actions et elle pourrait très bien agir tant sur l'un que sur l'autre des fondements et invoquer en justice les deux articles. Paragraphe 2, responsabilité du fait personnel et responsabilité du fait d'autrui. Peut-on par exemple cumuler la responsabilité du fait personnel de l'enfant et donc agir contre un enfant sur le fondement de l'article 1240 parce qu'il aurait commis une faute et comme vous le savez, un enfant, même un jeune enfant, peut commettre une faute. Et en même temps, peut-on agir contre les pères et mères pour le fait d'autrui, c'est-à-dire le fait de l'enfant qui engagerait leur responsabilité? D'abord, je vais répondre. Première remarque, il n'y a pas nécessairement correspondance entre la responsabilité du fait d'autrui des pères et mères et la responsabilité du fait personnel de l'enfant. Je m'explique. Vous vous souvenez que la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant mineur peut se mettre en œuvre, être mise en œuvre, quand bien même l'enfant n'aurait pas commis une faute. Il suffit d'un acte dommageable. Arrêt Fuhlenwart et Levert, on les a répétés tellement de fois que vous devez connaître ça par cœur. Je peux donc dire que les pères et mères sont tenus dans des hypothèses où l'enfant lui-même n'est pas personnellement responsable parce qu'il n'aurait commis qu'un seul ou un simple acte dommageable. Mais dans l'hypothèse où l'enfant a bien commis une faute et pas simplement un acte dommageable, on pourrait parfaitement admettre le cumul, agir contre l'enfant qui est doté d'un patrimoine sur le fondement de sa faute et donc responsabilité du fait personnel, et agir contre les pères et mères tenus de leur enfant mineur du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4. Je vais poser la même question et vous avez la réponse si vous réfléchissez un peu. Peut-on envisager un cumul entre responsabilité du fait personnel et responsabilité du fait d'autrui lorsque on prend en considération un dommage causé par le préposé? Peut-on imaginer que le préposé soit responsable de son fait personnel et le commettant responsable du fait d'autrui? Vous voyez que ça renvoie à la question du point de savoir si la responsabilité du fait d'autrui est une adjonction. On adjoint un responsable à un autre, on adjoint la responsabilité du commettant à celle du préposé, ou si elle est une substitution, on rend et on considère le commettant responsable du fait du préposé et on considère que le préposé ne l'est pas. Alors la réponse, vous l'avez. Vous savez qu'à l'origine, dans le Code civil, c'était un cumul de responsabilités. Il y avait adjonction de la responsabilité du commettant à celle du préposé. Le préposé pouvait être tenu de sa faute pour son fait personnel sur le terrain de l'article 1240, à l'époque 1382, et le commettant pouvait être tenu du fait du préposé, et la victime pouvait agir contre l'un ou contre l'autre, ou contre les deux. Mais vous savez aussi que, à partir de l'arrêt Costedoat, le préposé profite d'une immunité pour les actes qui sont commis dans l'exercice de sa mission, et vous vous souvenez de mes deux sous-ensembles, ou ensemble et sous-ensemble, les deux patates que j'ai essayé de dessiner et que vous avez retrouvées sur vos fiches de TD, qui permettent de voir que désormais, lorsque le préposé a agi dans l'exercice de sa mission, j'ai bien dit mission, je n'ai pas dit fonction, eh bien, il profite d'une immunité, il n'est pas tenu personnellement, il n'est pas responsable, tandis que le commettant l'est. Et dans ce cas, seul le commettant est tenu, pas le préposé. Et vous savez aussi que le préposé redevient responsable ou reste responsable lorsque son acte correspond à une faute pénale, qu'elle soit intentionnelle ou non. C'est la jurisprudence cousin. Paragraphe 3, responsabilité du fait personnel et régimes spéciaux de responsabilité. Je suis en train de me demander, est-il possible de conjuguer la responsabilité du fait personnel de l'article 1240 avec certains régimes spéciaux de responsabilité? Et je vais donner deux illustrations qui vont vous permettre de comprendre la problématique. Première illustration, la loi Badinter de 1985, la loi sur les accidents de la circulation. Elle est autonome. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est autonome? Ça veut dire que lorsqu'on est dans le domaine de la loi du 5 juillet 1985, on ne peut pas, la victime ne peut pas invoquer un autre régime de responsabilité. Elle est contrainte d'agir sur le fondement de la loi de 85. Elle ne peut donc pas cumuler l'ensemble que constitue cette loi spéciale sur les accidents de la circulation avec un autre régime de responsabilité. C'est ça ce que signifie l'adjectif régime autonome. Sur les produits défectueux, logiquement, on devrait pouvoir cumuler la loi sur les produits défectueux parce que la loi a prévu la possibilité d'invoquer d'autres dispositions en même temps que le corps de règles sur les produits défectueux. Mais à vrai dire, on est en présence d'un régime de responsabilité objectif qui n'incite pas au cumul. On pourrait donc l'admettre, mais à vrai dire, ça n'est pas très cohérent pour une victime d'aller conjuguer l'invocation de la loi sur les produits défectueux avec un autre régime. Elle le fait le plus souvent pour des raisons procédurales lorsqu'elle n'est pas assurée que les règles de la responsabilité sur les produits défectueux s'appliquent. Dans ce cas-là, par prudence, par précaution, elle invoque d'autres corps de règles. Paragraphe 4, responsabilité du fait des choses et responsabilité du fait d'autrui. J'ai presque envie de vous demander vous-même d'expliquer ce paragraphe 4, cet intitulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes bien avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de cumuler la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d'autrui? Ça veut dire que, prenons un exemple, un dommage est causé par le fait d'une chose dont l'enfant est gardien. Est-ce qu'on peut imaginer d'agir contre l'enfant gardien sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, et d'agir contre les pères et mères du fait de leur enfant mineur, gardien de la chose qui a causé le dommage? Réponse oui. Vous le savez d'ailleurs. L'enfant peut être gardien. Jurisprudence de l'Assemblée plénière, 9 mai 1984, arrêt Gabillet. L'enfant peut être gardien Et en ce cas, les pères et mères peuvent être tenus du fait de leur enfant. Même question pour le préposé et le commettant. Mais cette fois, la réponse est inverse. Le préposé ne peut pas être gardien. C'est cette fameuse expression un peu compliquée à comprendre et d'ailleurs pas très cohérente et pour le moins incohérente si on la compare à la situation de l'enfant. Il y a une incompatibilité entre les fonctions de gardien et de préposé. Le préposé ne peut pas être gardien, ce qui fait que c'est le commettant qui est gardien du fait de la chose. Mais alors, si le commettant est gardien du fait de la chose, il n'est pas tenu du fait du préposé, il est tenu de sa propre qualité de gardien. Ce n'est donc plus une responsabilité du fait d'autrui. Et je peux poser maintenant la même question à propos de la responsabilité générale du fait d'autrui et de la responsabilité générale du fait des choses. Voilà, je vois que j'en ai perdu quelques-uns, je recommence. Responsabilité générale du fait d'autrui, responsabilité générale du fait des choses. Imaginons un dommage causé par un professionnel dans un club sportif. Par le fait d'une chose. Imaginons le dommage causé par une personne handicapée, c'est la réplique, mais cette fois par le fait d'une chose. Peut-on admettre un cumul entre la qualité de gardien qu'aurait celui qui détient la chose entre les mains, le professionnel, la personne handicapée, et la responsabilité générale du fait d'autrui, 1242 alinéa premier depuis la réplique, qui pèserait sur le club sportif, qui pèserait sur l'association chargée d'organiser la vie de la personne handicapée? Réponse oui. Le sportif peut très bien être gardien de la chose et le club responsable du fait d'autrui. Même chose pour la personne handicapée, peut être responsable du fait de la chose et l'association qui en a la garde responsable du fait d'autrui. Section 2, les relations entre les différentes actions au sein de chaque source de responsabilité. Section 2. Les relations entre les différentes actions au sein de chaque source de responsabilité. Dans la section 1, j'envisageais les relations entre les différents types de responsabilité. Le fait personnel, le fait des choses. Le fait personnel, le fait d'autrui. Le fait personnel, les régimes spéciaux. Le fait des choses, le fait d'autrui. Là, je suis à l'intérieur de chaque source de responsabilité. Je regarde comment ça fonctionne. Paragraphe 1, au sein de la responsabilité du fait des choses. Au sein de la responsabilité du fait des choses, j'ai presque envie de vous demander vous-même de trouver les différents intitulés, donc les différents régimes de responsabilité du fait des choses. Mais je vais le faire avec vous. Et vous allez voir, c'est très simple. Première hypothèse, grand A si vous le voulez, première hypothèse. La responsabilité générale du fait des choses, article 1242 alinéa 1er, et la responsabilité du fait des animaux. Imaginons un dommage causé par un animal. Est-ce que la victime peut agir à la fois sur le fondement de l'article 1243 et la responsabilité spéciale du fait de l'animal, et sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er, la responsabilité générale du fait des choses? Réponse, non. L'une est exclusive de l'autre. Lorsque le dommage est causé par un animal, l'article 1243 s'applique et la victime ne peut pas invoquer l'article 1242 alinéa 1er. Deuxième hypothèse, la responsabilité générale du fait des choses. Toujours 1242 alinéa 1er, et la responsabilité du fait d'un bâtiment en ruine. Je confronte cette fois l'article 1244, responsabilité du fait d'un bâtiment en ruine, et l'article 1242 alinéa 1er. La réponse est simple. L'article 1244 est exclusif de l'article 1242 alinéa 1er. Lorsqu'on se trouve dans le cadre d'un dommage causé par la ruine d'un bâtiment, la victime doit agir sur le fondement de l'article 1244. Elle ne peut pas agir sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er. Elle devra donc prouver que le dommage est causé par la ruine du bâtiment et que cette ruine est arrivée, selon l'article 1244, par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Troisième hypothèse, responsabilité générale du fait des choses, article 1242 alinéa 1er, et loi de 1985 sur les accidents de la circulation. Dans cette hypothèse, le dommage est causé par un véhicule, peut-on agir sur la responsabilité générale du fait des choses plutôt que sur la loi de 85? Non, non. La loi de 85 est autonome, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Lorsqu'on est dans son domaine d'application, elle s'applique exclusivement. Mais quid lorsque un conducteur rentre dans un vélo avec sa voiture? Pour le cycliste, il doit agir sur le fondement de la loi de 85. Il est victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Et il va donc agir dans le cadre et en respectant le cadre de la loi de 85. Mais le conducteur, lui, qui voudrait agir contre le cycliste, il va agir sur le terrain du fait des choses, car le cycliste est gardien du vélo. Et donc le conducteur, lui, agit sur le terrain de l'article 1242 alinéa 1er. Ça ne met pas du tout en cause le fait que la loi de 85 est autonome, parce que le cycliste n'a pas le choix, il n'a aucun choix, il doit agir sur le terrain de la loi de 85, il n'a pas la possibilité de cumuler loi de 85 et responsabilité générale du fait des choses. Quatrième hypothèse, responsabilité générale du fait des choses et loi de 1998 sur les produits défectueux qui est codifiée aux articles 1245 et suivants du Code civil. Comme vous le savez, les deux peuvent se cumuler. Les deux peuvent se cumuler si on en croit la disposition qui figurait à l'article 1386-18 issu de la loi de 98. Il était prévu que la responsabilité générale du fait des choses puisse être invoquée en même temps que la responsabilité du fait des produits défectueux. La victime avait le choix et elle n'avait pas d'autonomie. Mais depuis un arrêt de la Cour de justice, on considère que la victime ne peut plus invoquer la responsabilité générale du fait des choses si elle devait lui être plus favorable. Dans ce cas, elle n'a pas le choix. Elle doit exclusivement agir sur le fondement des articles 1245 et suivants. Il n'y a plus de cumul possible depuis cette jurisprudence de la CJCE à l'époque. Paragraphe 2. Au sein de la responsabilité du fait d'autrui. Au sein de la responsabilité du fait d'autrui, la question est simple. La victime peut-elle choisir entre une responsabilité spéciale du fait d'autrui, comme étant préposé, père et mère, du fait de leur enfant, et la responsabilité générale du fait d'autrui, et donc avoir une option entre le texte spécial qui serait applicable et le principe général ou la responsabilité générale dégagée à partir de la réplique. Réponse non. Si elle agit contre le père et la mère, elle doit le faire dans le cadre du régime spécial. Même chose pour commettant et préposé. Elle ne peut pas choisir son action. Mais on pourrait évidemment compliquer les choses. Imaginons que le dommage est causé par un enfant qui exerce un sport. Peut-on agir contre l'association sportive au lieu des pères et mères? Oui, l'association sportive sur le terrain de la responsabilité générale du fait d'autrui peut être responsable, autant que peuvent l'être éventuellement les pères et mères si les conditions d'application du texte sont réunies. Et par conséquent, il y a une possibilité de distribuer les cas de responsabilité du fait d'autrui selon la personne contre laquelle on agit. Pourrait-on également cumuler la responsabilité spéciale des pères et mères et la responsabilité spéciale du commettant? Alors, vous êtes en train de vous dire, mais alors, qu'est-ce qu'il est allé inventer, une responsabilité spéciale père et mère cumulée avec une responsabilité spéciale du commettant? Imaginons un enfant qui cause un dommage alors qu'il exerce son activité professionnelle. Les parents pourraient être responsables du fait de l'enfant. Le commettant pourrait être responsable du fait de l'enfant saisi en sa qualité de préposé. Et il est évident que là encore, on peut distribuer les deux actions et imaginer d'agir contre le commettant comme on pourrait agir également contre les pères et mères. Au fond, ça n'est pas un cumul. C'est la personne contre laquelle on agit qui va conduire à respecter le cadre dans lequel cette action est exercée. Chapitre 2, l'exercice de l'action en responsabilité. Je vais aller un peu vite car nous sommes ensemble depuis déjà pas mal de temps et je ne voudrais pas épuiser votre attention et votre capacité d'attention. L'exercice de l'action en responsabilité, elle pose deux questions. Qui sont les titulaires de l'action, section 1, et comment s'expriment et s'exercent les actions récursoires, section 2. Donc section 1, les titulaires de l'action. Qui peut exercer une action en responsabilité? Tout d'abord les victimes directes. J'aurais pu mettre un paragraphe 1 si je développais les victimes directes. Ce sont les titulaires naturels d'une action en responsabilité. Et ces victimes, elles peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales. Ça peut même être une collectivité locale. On a déjà vu des régions agir pour des dommages écologiques. Et on a même discuté en première année, ou vous avez discuté en première année, du point de savoir si la victime pouvait être une personne qui n'était pas encore née. Vous vous souvenez, infance, conceptus, l'adage infance, conceptus. L'enfant dans le ventre de sa mère pourrait-il agir en justice s'il finit par naître, si je puis dire? Vous savez que on fait rétroagir sa personnalité juridique dès lors qu'il y va de son intérêt et il peut agir. Deuxième catégorie, les héritiers, paragraphe 2. Les héritiers peuvent agir au nom de la victime parce qu'ils sont les continuateurs de la personne du défunt. Ils exercent l'action du défunt. Et le dommage dont ils vont demander réparation, c'est celui du défunt. Ils peuvent demander réparation de tous les dommages. Vous vous souvenez de votre fiche de TD sur le dommage moral. Vous vous souvenez de la chronique de Georges Ripper, Le prix de la douleur. Et vous savez que désormais, la jurisprudence admet que l'héritier peut agir en réparation du dommage moral souffert par le décujus avant son décès. Et il le peut même si la personne est décédée sur le coup, car au fond, la créance de réparation, du dommage souffert, cette créance se transmet aux héritiers. Paragraphe 3, les victimes par ricochet. Les victimes par ricochet, comme vous le savez, peuvent exercer une action au titre de leur propre préjudice, car elles souffrent elles-mêmes et elles souffrent d'un dommage qui n'est pas immédiatement le leur. C'est immédiatement le dommage dont a souffert la victime directe, mais qu'il ricoche ce dommage sur la victime directe pour les atteindre en raison de la proximité qui existe entre la victime directe et la victime par ricochet. Auparavant, la jurisprudence exigeait un lien de famille, mais comme vous l'avez vu, à partir des arrêts que vous avez étudiés concernant l'action en réparation de la concubine pour le dommage souffert par son concubin, elle exige uniquement désormais un lien de proximité. Section 2, les actions récursoires. Les actions récursoires, je vais aller vite. Je veux que vous compreniez quelques éléments essentiels. Premier élément, il existe en droit français, en droit des obligations, et vous allez retrouver ça à plusieurs reprises dans le programme de droit civil et même au-delà, il existe une distinction fondamentale entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette. On l'a vu en cas de solidarité ou en cas de responsabilité in solidum. Une personne peut être obligée d'indemniser une victime, c'est l'obligation à la dette, mais elle va pouvoir disposer d'un recours contre un co-responsable pour une partie, voire pour le tout, de ce qu'elle aura payé, le cas échéant, à la victime. Elle est donc obligée à 100% à la dette, tout en étant tenue de contribuer uniquement pour une partie. Quel est l'intérêt de ce que je suis en train de dire? C'est que la victime va avoir, dans certaines hypothèses, face à elle, des co-responsables. Chacun de ces co-responsables est tenu de l'ensemble de la dette, de telle sorte que si l'un des co-responsables n'est pas solvable, parce qu'il serait en faillite, par exemple, elle pourra demander l'indemnisation pour le tout à l'autre co-responsable. C'est le propre de la responsabilité in solidum, et c'est l'effet de cette obligation à la dette qui permet à la victime d'être un peu mieux protégée sur le terrain de l'action en responsabilité qu'elle exerce contre les responsables. La responsabilité in solidum, voilà pourquoi on dit qu'elle fonctionne un peu comme une garantie au profit de la victime. Mais ce co-responsable tenu in solidum qui aura indemnisé la victime va exercer ensuite une action récursoire une fois qu'il a indemnisé la victime, une action récursoire contre le ou les autres co-responsables afin de pouvoir récupérer tout ou partie de la somme. Et je dis tout ou partie de la somme parce que évidemment cela va dépendre de la part contributive que doit assumer chacun par rapport à cette dette de réparation. Il peut y avoir deux co-responsables, chacun tenu pour 50%, mais on peut imaginer que l'un soit tenu de 80%, l'autre de 20%. C'est le juge lui-même qui détermine quelle est la contribution à la dette de chacun, et il le détermine en appréciant le rôle que chacun va avoir tenu dans la réalisation du dommage. Imaginons que les deux co-responsables aient chacun commis une faute qui a entraîné le dommage. Le juge appréciera dans cette hypothèse si les co-responsables sont tenus en raison d'une faute. Le juge appréciera la part contributive de chacun en fonction de la gravité de la faute. Et c'est en fonction de la gravité de la faute qu'il attribuera le pourcentage qui doit revenir à chacun des responsables. Si les co-responsables n'ont commis aucune faute, par exemple, ils sont co-gardiens, il y aura un partage de responsabilité à proportion du rôle causal du fait générateur pris en compte. C'est alors le rôle causal qui permet d'apprécier la proportion qui doit revenir à chacun des responsables. Cette phase-là va évidemment être essentiel dans l'appréciation de l'action récursoire que chacun va pouvoir exercer contre l'autre. Je vous rappelle que vous en connaissez d'ailleurs bien davantage, car quand on a étudié la causalité alternative, vous vous souvenez cette hypothèse dans laquelle on a une incertitude sur le laboratoire qui a commercialisé le distilbène, ou bien une incertitude sur l'établissement, la clinique dans laquelle il y a eu une infection nosocomiale dont la victime se plaint, eh bien, vous vous souvenez que s'agissant de l'action récursoire que pourrait exercer l'un des co-responsables contre l'autre, On s'est demandé si on pouvait, sur le fondement de cette théorie de la causalité alternative, prendre en considération les parts de marché que chacun détenait, que chacun des co-responsables détenait. Vous vous souvenez de l'exemple du Distilbène? Je vous le rappelle. Dans le Distilbène, deux laboratoires ont commercialisé le médicament. La victime a absorbé l'un des deux qui a été commercialisé, mais elle ne sait plus lequel. Soit le produit vient d'un laboratoire X, soit il vient du laboratoire Y. La jurisprudence facilite l'action de la victime en disant, vous vous souvenez plus, c'est pas grave. Causalité alternative, c'est soit l'un, soit l'autre. Je condamne les deux, in solidum, à vous indemniser. Les deux sont donc obligés à la dette. C'est la phase de l'obligation à la dette. L'un des laboratoires va alors payer le tout. Il va se retourner contre l'autre. Et il va se retourner contre l'autre en lui demandant de participer à la réparation. Comment savoir ce que doit l'autre laboratoire? Est-ce qu'on divise par deux? Est-ce qu'on fait au hasard? Une partie de la doctrine et de la jurisprudence considère que on doit pouvoir prendre en considération les parts de marché que détenait chacun des laboratoires sur le marché de la commercialisation du Distilbène. S'il y en a un qui avait 90% du marché, il sera tenu de 90% au stade de la contribution à la dette. Voilà comment fonctionne, dans le cadre de la causalité alternative, le recours qu'exercent les co-responsables. Pour être complet, je devrais dire un mot encore du recours de l'assureur. L'assureur joue un rôle évidemment déterminant en matière de responsabilité. Et quand on parle d'assureur, on parle soit de l'assureur du responsable, soit de l'assureur de la victime. L'assureur de la victime qui indemnise la victime, il se retourne contre le responsable parce qu'il est subrogé dans les droits de la victime. Il prend la place de la victime parce qu'il l'a indemnisée. Et je veux donc que vous notiez que l'assureur d'une victime, une fois qu'il a indemnisé la victime, va se retourner contre le responsable en vertu d'une action subrogatoire qui consiste à prendre la place de la victime, à agir au lieu et place de la victime, parce qu'il est subrogé dans les droits de la victime. Pour finir, quelques mots dans un chapitre 3. L'objet de l'action en responsabilité. L'action en responsabilité, elle a pour objet la réparation du dommage. C'est une évidence. Elle repose à ce titre sur un principe essentiel, qui est le principe de la réparation intégrale, qui veut dire quoi? Qui veut dire que la victime a droit à la réparation de l'entier dommage. Mais les choses sont parfois un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, ce qui appelle quelques précisions. Section 1, la réparation du dommage. On comprend très vite que le principe de réparation intégrale a pour corollaire le fait que la victime a un droit de créance, un droit de créance qui entre dans son patrimoine, et vous savez d'ailleurs que c'est ce droit de créance qui se transmet à ses héritiers, et ce droit de créance lui confère le droit à la réparation de son dommage. Et ce dommage, il va être évalué par l'action en justice, et donc postérieurement, évidemment, à la réalisation du dommage. Et pour réparer son dommage, en vertu du principe de réparation intégrale, on a deux règles qui s'imposent. Premièrement, tout le dommage doit être réparé. Deuxièmement, rien que le dommage ne doit être réparé. Paragraphe 1, tout le dommage doit être réparé. Même le dommage d'ailleurs imprévisible, car on est en matière délictuelle et pas en matière contractuelle. Tout le dommage, ça pose des questions. Par exemple, quid, lorsque la victime veut demander réparation d'un bien qui aurait été endommagé, qu'elle a donc subi un dommage matériel, quid lorsque cette réparation dépasse la valeur de la chose. Ça coûte plus cher de réparer que de remplacer. Que fait-on ? La jurisprudence dit, mais si l'on peut remplacer la chose, alors le montant de la réparation doit être plafonné à la valeur de remplacement. Et dans ce cas, il va falloir également tenir compte de l'éventuelle vétusteté de la chose pour diminuer le montant de l'indemnisation. Imaginons que vous ayez une Fiat 500, que cette Fiat 500 soit endommagée, que le coût des réparations dépasse la valeur de remplacement, vous ne pourrez pas exiger d'être indemnisé pour le coût des réparations. Vous n'aurez le droit à une indemnité qu'en fonction de la valeur de remplacement. Mais la valeur de remplacement, on ne va pas vous offrir le prix d'un, le montant d'un véhicule neuf. On va tenir compte de la vétusteté du véhicule. Et donc, on va prendre en considération le prix de marché de votre véhicule en tenant compte de son ancienneté, du nombre d'années qu'a le véhicule et donc de sa valeur Argus, du coût Argus pour les voitures, qui va évidemment diminuer d'autant le montant de la réparation. Si le bien en question est un corps certain, que ça n'est pas une chose fongible, que c'est un corps certain et qu'on ne peut pas le remplacer ce bien par un autre, on n'est pas en présence d'une Fiat 500, on est en présence d'une chose, d'un tableau de maître, ou on est en présence, dans cette hypothèse, d'un véhicule de collection, si je continue sur le cas des voitures. Dans ce cas-là, la victime a le droit à une indemnisation qui prend en compte la réparation de la chose, puisque de toute manière, il n'y a pas de remplacement possible. Paragraphe 2, rien que le dommage, parce que la victime, si elle a le droit à la réparation de tout son dommage, n'a pas le droit à plus. On ne prend pas en considération, par exemple, l'ampleur de la faute, la gravité de la faute commise par le responsable pour évaluer les dommages et intérêts. On prend en considération l'ampleur du dommage. Le droit français, vous le savez d'ailleurs, ne connaît pas, par exemple, les dommages et intérêts punitifs. Or, vous le savez parfaitement, mais il faut en avoir une claire conscience, une faute mineure peut entraîner un dommage très grave, et une faute très grave peut entraîner un tout petit dommage. Ce qui compte uniquement en l'état actuel du droit français, je ne parle pas du projet de réforme qu'il propose justement de revenir sur cette solution. Ce qui compte en l'état actuel du droit français, c'est le dommage, rien que le dommage. La réparation intégrale, c'est la réparation du dommage, sans prise en considération de la faute qui aurait été commise. Section 2, la mise en œuvre de la réparation. J'en ai pour quelques mots. Dans cette section 2, il faut comprendre plusieurs choses. Premièrement, la question de l'évaluation du dommage. À quel moment se place-t-on pour évaluer le dommage ? Réponse, il faut se placer au jour de la décision de justice pour évaluer le dommage. Et pour évaluer le dommage, il va y avoir effectivement un travail important à accomplir pour le juge à travers la décision pour réussir à indemniser au mieux le dommage subi. Et vous savez que ça n'est pas toujours facile. En matière de dommages corporels, il y a des barèmes, des nomenclatures. Vous avez déjà étudié le barème d'Intillac. Ces nomenclatures n'ont pas de force obligatoire. On les considérerait contraires à l'article 5 du Code civil et à la prohibition des arrêts de règlement. Mais ces nomenclatures sont un guide très fréquemment suivi par les juges. Vous savez aussi qu'il est difficile d'indemniser le dommage, d'évaluer, pardon, d'évaluer le dommage moral, car il faut en quelque sorte sonder les cœurs, sonder les âmes, mais ça fait partie du travail du juge. Et pour le dommage matériel, l'évaluation va intégrer la valeur de marché à laquelle je viens de faire référence. Que se passe-t-il, deuxième question, lorsque le dommage évolue? Le dommage évolue, la question de l'évolution du dommage, c'est au fond deux questions. Le dommage peut d'abord évoluer lui-même intrinsèquement. Par exemple, une blessure qui s'aggrave. J'ai une blessure à la jambe et puis la gangrène gagne, il faut amputer la jambe. Et bien dans ce cas-là, on parle d'évolution intrinsèque du dommage. Le juge se place au jour de sa décision pour l'évaluer et il prend en compte la gravité du dommage au jour de la décision. S'il y a une évolution post-décision, la victime pourra agir à nouveau. J'en avais parlé dans le cas où la victime séropositive contracte le sida, c'est la deuxième phase de la maladie, elle pourra agir à nouveau en justice. L'évolution peut aussi être extrinsèque, c'est-à-dire c'est le même dommage, mais c'est sa valeur qui évolue. Le dommage n'a pas évolué dans sa substance, c'est la valeur elle-même qui a bougé. On comprend que pour un dommage matériel, sa valeur, son évaluation puisse changer entre le moment où a eu lieu l'accident et le moment de la décision de justice ou même après la décision de justice. La réponse est simple. Le juge évalue le dommage à la date de la décision de justice, ce qui fait que les variations extrinsèques du dommage qui auraient eu lieu depuis la date de sa réalisation jusqu'à la décision vont par hypothèse être intégrées dans le raisonnement que va mener le juge pour évaluer le dommage. En revanche, si le dommage évolue de façon extrinsèque postérieurement à la décision de justice, la victime ne peut plus s'en plaindre. Elle a été réparée, si je puis dire, dans son dommage, et l'évolution postérieure ne peut pas donner lieu à une nouvelle action. Troisième interrogation dans cette section 2, sur les modalités de la réparation. La réparation, normalement, donne lieu au versement d'un capital, mais la jurisprudence admet aussi qu'on puisse, dans un certain nombre d'hypothèses, allouer à la victime une rente, pour l'indemniser, par exemple, des pertes de gains professionnels, des pertes de revenus, pour lui fournir une assistance. Et cette indemnisation par voie de rente est logique et elle est de principe pour les dommages qui, au fond, s'étalent dans le temps et la rente contribue à leur réparation. Pour les dommages qui ne s'étalent pas dans le temps, il va de soi que l'indemnisation peut avoir lieu naturellement par le versement d'un capital. Voilà, ce cours est fini. Il était un peu long, mais au fond, vous pouvez aussi rythmer la manière de travailler ou votre manière de travailler avec ces podcasts. C'est peut-être un des seuls avantages que l'on peut y voir. De votre point de vue, j'espère que vous préférez toujours les cours en présentiel. Je crois qu'on dit comme ça pour évoquer ces cours où l'on est ensemble. On n'est pas ensemble, mais je vais vous parler un peu de moi. Je vous ai mis à chaque fois une chanson pour se quitter, chanson française, chanson rendant hommage aux Italiens, chanson rendant hommage aux Espagnols. Et puis, puisque je vais vous parler un peu de moi, ou un peu de mes origines, je vais finir en chanson, mais en partant, si vous le voulez bien, d'un extrait de film, un film de 1964. Je n'étais pas né, de peu. Un film où le héros, en vieil acteur américain qui est aujourd'hui décédé, Anthony Quinn, magnifique acteur, un film où le héros aime boire, rire, chanter et danser. À très vite.
Teach me to dance. Will you?
Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Up. Again. Up. Down. Yasu Levesti. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Ever see a more splendiferous crash? You can laugh too, huh?
Hey, you laugh? You saw how they all ran.
Especially the monks.
The third time was the best. Nothing left.
Hey.